Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution de son ouvrage « Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine ». Bon, il faut quand même qu'on vous dise, Elvire et l'Affranchi, c'est surtout une grande histoire d'amour. Et on est ravis de la recevoir pour ce nouvel ouvrage qui nous permet de faire des liens entre l'évolution d'Internet et notre utilisation des réseaux sociaux en parallèle avec l'évolution des féminismes et de nos engagements. C'est parti ? Bienvenue Elvire à la librairie.
Merci.
C'est ta deuxième fois chez nous.
Oui, c'est vraiment un plaisir, j'avais hâte.
Non, ça fait plaisir de t'entendre. Tu étais venue à l'époque avec Sarah pour ton livre sur la clit révolution, enfin votre parcours clit révolution. Mmh. Ce qui est hyper appréciable, c'est que évidemment l'histoire de clit révolution fait partie de l'histoire de ton livre aussi. Mais avant toute chose, ce qui m'intéresserait de connaître et de savoir, c'est avant de te lancer en fait dans la clit révolution, dans les fémènes et de toute cette histoire fabuleuse qui est la tienne, quel était ton rapport à Internet ? Parce qu'on est plutôt de la même génération et on a vu arriver Internet assez tardivement en fait, on était ado quoi. Comment t'as appréhendé en fait ce système de communication ou de recherche ou...
Bah moi, au début d'Internet, j'ai l'impression d'être vraiment vieille.
Bah, c'est-à-dire qu'on a vécu un petit peu, mais bon.
Parce que moi, mais je pense un peu tout le monde dans la salle presque. Mais moi, j'ai un peu été la génération où on devait choisir entre être sur Internet et avoir le téléphone fixe. Et où du coup, moi, j'avais un usage très académique. J'allais sur Lycos pour faire mes recherches, pour mes exposés. J'allais beaucoup sur tasanté.com, qui était une source déjà d'éducation sexuelle, et sur les forums, Caramel, etc. Mais c'était plus un lieu de divertissement et un lieu... J'ai eu Facebook très tard, j'ai eu Facebook quand je passais le bac en 2007. Donc pour moi, c'était plus un réseau d'amitié, et je suivais des réseaux, des blogs, etc., mais qui étaient des blogs de mode. C'était la grande époque des blogs mode. Donc j'avais un rapport à Internet qui était vraiment le même que quand t'allumes ta télé ou que tu... C'était pas un rapport actif, en fait. C'était vraiment parler avec les copines et regarder les derniers sacs que j'aimerais avoir et que je pouvais pas payer.
Mais dans les expériences que tu relates, puisque tu vas accompagner ta démonstration de différentes histoires de contes de personnes que tu connais assez bien, de tes amis ou de contes assez importants dans les féminismes, et je remarque en fait qu'au début, et c'est vrai que j'avais un peu oublié, mais on était surtout sur des blogs, des Tumblr, des choses où on montrait déjà nos vies. Mais est-ce que tu dirais qu'on était déjà dans un engagement aussi intime qu'on l'est maintenant? On racontait nos vies, mais on n'avait pas non plus énormément de facilité de le faire. On pouvait poster une photo, Tumblr par exemple, où c'était des photos... Enfin, après,
les skyblogs.
Skyblogs.
Tumblr, il y avait les skyblogs, mais en fait, j'ai l'impression que les blogs, au départ, ils avaient vraiment une vocation de lifestyle, c'est-à-dire raconter sa vie. Donc c'était un peu destiné à nos amis. Après, t'as eu les influenceuses mode, mais le Tumblr Paye ta schneck, par exemple, qui est pour moi un des premiers Tumblr féministes, en tout cas francophones, qu'on a eu. Avant ça, t'avais aux États-Unis Men Who Are Taking Too Much Space on the Train, sur le manspreading. C'est des Tumblr qui sont arrivés dans les années 2012. Paye ta schneck, c'est 2012. Donc en fait, c'est marrant parce que quand je l'ai interviewé, Anaïs Bourdet, elle me disait qu'en fait, on s'est rendu compte que Femen et Paye ta schneck sont nés en même temps. Vraiment à un mois près. Et c'est le début de l'utilisation des blogs comme d'un outil politique. Mais au départ, c'était vraiment... Les blogs, c'était pour raconter ta vie, parler de ton intimité. Et progressivement, c'est devenu aussi des collections, c'est-à-dire les Tumblr. Alors moi, j'ai très peu été sur Tumblr, mais c'était... Anaïs, c'est ce qu'elle raconte, Anaïs Bourdet, que à la base, en fait, elle avait plein de Tumblr différents. Elle était en école de graphisme, et donc elle collectionnait... Elle avait un Tumblr de tags, où elle collectionnait les tags dans la rue, les tags sur les trains. Elle avait plein de Tumblr pour faire rigoler ses amis. Et en fait, le Tumblr Paye ta schneck, c'est un millième Tumblr qu'elle a lancé, mais qui n'avait pas vocation à être grand public. C'était vraiment un travail personnel qu'elle faisait, qu'elle a envoyé à quelques amis. Et en fait, en quelques heures, d'un coup, elle a commencé à recevoir des centaines de témoignages. En fait, ça a été... alimenté, ça a pris très vite, ça a été partagé très vite aussi, et médiatisé très vite, parce que je pense une semaine après l'apparition de son Tumblr, il y avait déjà des sites qui parlaient, je pense un des tout premiers articles c'est sur mademoiselle.com si je dis pas de bêtises, qui relayait en fait ces témoignages-là, sur lequel maintenant on met un nom, c'est-à-dire harcèlement de rue. Mais à l'époque de Beita Schneck, en fait, ce terme n'existe pas, on l'utilise pas. C'est tout nouveau et c'est intéressant parce que c'est la même chose que le Tumblr Men Who Are Taking Too Much Space on the Train, où alors qu'il y avait eu déjà des études, il me semble, d'anthropologues et de sociologues sur ce phénomène-là, en fait, de comment les hommes prennent corporellement plus d'espace, mais qui était tenu par des chercheuses, et où en fait on n'avait jamais vraiment adressé ça de manière publique, mainstream, et c'est intéressant de voir à quel point ça a eu un impact, c'est-à-dire qu'en fait ce Tumblr a aussi pris beaucoup de... Parce que moi je me souviens de l'avoir vu en France, et d'être là, ah, c'est génial, etc. Et en fait c'est devenu une notion que, voilà, que tout le monde utilise, où maintenant même les mecs font des blagues sur le manspreading, où il y a eu des campagnes à Madrid, à Tokyo, à New York, sur si vous voulez arrêter d'écarter vos jambes comme si votre vie en dépendait. Et c'est intéressant en fait de voir l'impact politique que ça a eu, parce que pareil, Beita Schneck, en fait, c'est devenu un enjeu dont les politiciens et politiciennes se sont emparés. On se rappellera de cette photo de Marlène Schiappa qui marche dans le 18e en montrant qu'on peut marcher dans le 18e quand on est une femme sans se faire emmerder. C'était devenu un enjeu politique et c'était devenu aussi un argument électoral.
Oui, c'est ça. Parce que de ce fait, on est passé assez rapidement, comme tu le dis, d'un Internet un peu fenêtre sur nos vies, à quelque chose d'impliqué et de dénonciateur aussi. De dire, c'est bien beau ce qu'on essaye de vous montrer, mais on a aussi d'autres, des choses crades à vous montrer, quoi. Il y a des choses vraiment pas cool qui nous arrivent et ça devient une voix entendue.
Oui, parce qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à apprendre à utiliser ces outils, c'est-à-dire pour raconter nos vies, etc. Et il y a certains réseaux sociaux qui sont très féminins, où enfin les femmes ont le droit de s'exprimer, parce que c'est considéré comme de toute façon une sous-catégorie, c'est-à-dire il y a d'un côté les médias, de l'autre côté les blogs, et du coup, en fait, c'est des espaces qu'on nous a laissés, un peu comme le podcast, hein, d'ailleurs, qui maintenant est en train d'être repris par les hommes, mais qui pendant très longtemps, en fait, les premières productions de podcasts, c'était essentiellement des femmes. Et du coup, c'est un peu des outils où on se dit, OK, on a besoin de peu de moyens, c'est facile à mettre en place, c'est des outils qui sont simples. Et donc, on utilise ces espaces-là, puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire rentrer enfin, on n'arrive pas à prendre l'espace médiatique pour parler de nos thématiques, pour parler d'afroféminisme, pour parler de féminisme tout court. Et du coup, c'est intéressant de voir comment il y a eu un levier, en fait, qui c'est devenu un réel levier. C'est devenu aussi progressivement un moyen pour s'organiser, pour rassembler des ressources. Par exemple, c'est ce qu'elle explique, Laurane Safou, qui a un des premiers blogs francophones français afroféministes, qui s'appelle Mrs. Roots, et qui raconte qu'en fait, à l'époque, elle, quand elle crée son blog, elle le pense vraiment... Alors pareil, elle pense pas qu'il va être suivi par énormément de personnes, mais elle le pense comme un lieu pour rassembler des ressources qui parlent aux femmes comme elle. Et où en fait, il y a très peu de lieux sur lequel on va trouver. Il y a des écrits, il y a quand même beaucoup d'écrits afroféministes américains et anglophones, mais tout le monde parle pas anglais. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, OK, bah, je vais essayer de traduire cette pensée et de la simplifier pour avoir un lieu dans lequel je peux mettre toutes mes ressources en même temps, un peu comme on constituerait une bibliothèque. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, par la suite, ces espaces de parole ont fini par se multiplier avec des personnes différentes à la tête de ces sites et de ces blogs. Et ils se sont aussi diversifiés, c'est-à-dire les formats ne sont pas les mêmes. Donc, il va y avoir Anaïs qui lance une collecte de témoignages. Il va y avoir Mrs. Roots qui lance une collecte de questions. Après, elle avait fait toute une série comme ça d'articles sur des préjugés, de c'est quoi, pourquoi on traite les Noirs certains Noirs de bounty, pourquoi est-ce que... Enfin, de reprendre un peu les attaques les plus fréquentes qu'on peut retrouver contre les femmes noires. Et c'est intéressant de voir à quel point, à l'époque, c'était controversé. Et qu'en fait, c'était des paroles qui pouvaient aussi être un peu... sembler un peu complotiste, un peu exagéré, etc. Et aujourd'hui, quand on relit ces articles, c'est fou à quel point ça nous paraît complètement acquis. On est là, oui, se peindre la face en noir, c'est pas forcément un truc hyper intelligent. Et c'est pas forcément hyper respectueux des personnes noires. Et c'est intéressant, en fait, de voir comment ça a permis de mainstreamiser complètement ces idées-là et cette pensée politique. Typiquement, le harcèlement de rue, aujourd'hui, on a même... c'est techniquement verbalisable. C'est pas pensable. À l'époque, c'était vraiment... on parle encore... Par ailleurs, ça existe encore aussi, les love coach qui t'apprennent comment faire pour aller chercher des filles dans la rue, etc. Mais je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment... considéré comme complètement normal, et il y avait un peu ce truc-là de « mais non, mais on exagère, si on peut pas séduire dans la rue, enfin, si on peut pas vous faire des compliments, vous prenez tout mal. » Maintenant, je pense que ça commence aussi à être compris par la majeure partie des personnes que c'est pas tout à fait OK. Ça veut pas dire qu'on le fait plus, mais ça veut dire qu'on a quand même compris qu'on n'était pas tout à fait clean sur notre manière de procéder.
Oui, c'est ça. Et ça aura pris de ce fait 10 ans. Enfin, quand on y pense, il y a 10 ans qui viennent de s'écouler, là, entre les premiers Tumblr, blogs et autres joyeusetés, jusqu'au compte maintenant, alors qui, j'ai l'impression, sont quand même en majorité sur Instagram, même si, alors moi, je ne suis jamais allée sur Twitter, enfin, Twitter, je ne connais pas bien.
Il ne va pas.
Voilà, bah, j'ai cru comprendre qu'il ne valait mieux pas. Mais en tout cas, Facebook, dans mon souvenir... n'a jamais eu, en fait, la force qu'Instagram a maintenant. Est-ce que les pages Facebook ont vraiment eu cette même implication, en fait, dans la façon de faire évoluer la société, tout simplement, parce que Instagram a vraiment cette...
Les pages Facebook, peut-être pas, mais les groupes Facebook ont eu énorme poids, en fait, dans les luttes féministes. Mais en effet, en fait, tout dépend de quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser au féminisme. Moi, typiquement, j'avais rejoint un groupe Facebook, j'ai jamais été très active, mais en fait, il y avait des réels, l'équivalent d'un forum, en fait, qui était hyper dense, hyper riche en échange de ressources. Et c'est Anaïs Bourdet qui le dit, que elle, en fait, quand elle lance Paytashneck, elle se considère pas comme féministe. Elle se rend compte bien après qu'en fait, c'est dans une démarche féministe, qu'en fait, on est en train de parler d'une violence qui est systémique, qui est liée à un genre. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, très vite, elle s'est mise à rejoindre des groupes féministes sur Facebook, et c'est là qu'en fait, elle a tout appris. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un prêt à répondre à un commentaire, qui était prête, à discuter et à faire un travail de pédagogie. Et du coup, elle dit qu'en tout cas, c'est là qu'elle a trouvé énormément de ressources. Donc, je pense que ça dépend vraiment de notre génération de féminisme, c'est-à-dire en fait à quel moment on a commencé à vraiment s'intéresser à ces questions, et de deux, de par quel prisme on l'a pris. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, moi je m'étais pas trop intéressée au forum, mais aussi parce que à cette époque-là, moi j'étais déjà dans Femen et que du coup on menait des actions et que j'ai appris plus au contact d'autres femmes qui étaient dans d'autres assos et qui discutaient avec nous en manifestation, etc. Et du coup c'était une autre manière d'apprendre, mais je pense qu'en effet, Instagram a pris aujourd'hui une grande place. Bah, déjà parce qu'en fait, c'est un réseau que notre génération utilise plus, tout simplement. C'est-à-dire, la génération... Enfin, en fait, c'est fou de voir quand on va dans la rue. Moi, je vois vraiment la différence qu'il y a entre les personnes qui allaient manifester en 2012, quand j'ai commencé à rentrer chez Femen, où on était un peu les petites jeunes du lot. Et on avait entre 20 et 30 ans. Et maintenant, où en fait, je vois vraiment que ça se rajeunit. Enfin, en fait, ça se rajeunit énormément et on voit de moins en moins de femmes, je sais pas, de 40, 50 ans qui étaient un peu au départ celles qu'on voit. Enfin, d'ailleurs, on voyait même plus des 60, 70, c'est-à-dire en fait, les féministes du MLF, etc., on les voyait en manif, mais c'était vraiment... Déjà, on était beaucoup moins nombreuses. Le 8 mars, c'était la catastrophe. Enfin, c'était d'une tristesse. C'était vraiment... très triste à voir, et il y a une énergie, enfin on voit qu'il y a un souffle nouveau, et donc c'est pas si étonnant que Instagram soit un des lieux qu'on soit approprié. Aussi, je pense, plus que Twitter, même si Twitter en fait a été très très important, notamment pour les afroféministes, mais aussi je pense à Crève Georgette qui avait son blog, mais qui tweetait aussi beaucoup. Pour moi, c'est plus le réseau social de l'information, des journalistes. C'est d'ailleurs beaucoup les journalistes qui sont investis de ce réseau dans ses débuts en France. Et Instagram, pour moi, c'est pas anodin, en fait, que ça soit devenu un de nos piliers, parce qu'Instagram, c'est le réseau social de l'intime. C'est-à-dire, en fait, c'est le réseau social sur lequel tu racontes ce que t'as fait avec tes enfants, ce que t'as mangé, où t'es parti en vacances, et où, progressivement, il y a eu l'outil story, qui est venu aussi après avec l'outil question, avec l'outil qui te permet de recueillir des témoignages très rapidement, avec, en fait, l'outil sondage, l'outil quiz, et tout ça, c'est des outils qui te permettent assez rapidement de mettre en place une conversation. Et pour moi, c'est pas complètement illogique qu'on ait choisi un réseau social qui fonctionne avant tout par l'image, où du coup, il y a aussi une question de représentation, de comment tu te représentes, comment tu te montres, et qui a progressivement été hacké, là aussi, qui est passé du lifestyle, qui existe toujours, évidemment, mais où, en fait, on s'est dit, ah, mais en fait, peut-être qu'on peut faire autre chose que du lifestyle, et peut-être qu'on peut raconter aussi nos problématiques intimes qui sont forcément politiques à travers ce réseau.
Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se... En fait, il y a deux façons de le voir. C'est où, en fait, Instagram a évolué parce qu'on lui a demandé d'évoluer, ou Instagram a évolué et donc on s'est permise, en fait, de l'utiliser différemment. Et j'arrive vraiment pas, en fait, à... Enfin, je vois bien, même dans mon utilisation ou à la librairie, etc., qu'on est passé... mais c'est assez récemment, en fait. Hein. Je dirais pas que ça fait... très très longtemps qu'on a autant la possibilité, en fait, de, comme tu disais, poser des questions, faire des sondages, etc., en vrai, ou mettre même des liens, enfin ça c'est quand même hyper récent,
c'est hyper récent,
de pouvoir faire des choses construites. Là on arrive à un état où, enfin, je me disais, moi je l'utilise même pour de la mise en page, en fait, dans les stories, tellement tout est bien fait pour insérer des choses, etc. Et cette utilisation-là, je me demande vraiment, en fait, si c'est les utilisateurices qui l'ont amené. C'est-à-dire que les équipes Facebook, puisqu'en fait, c'est tout le même groupe, je sais plus, Meta...
Mais au départ, c'était pas le même groupe.
C'était pas le même groupe.
Je sais plus quand est-ce que ça a été racheté.
C'est pas, il y a pas, enfin, je dirais pas que c'est, il y a très longtemps, mais en tout cas, est-ce que, parce que ce sont des gros groupes qui travaillent que sur la communication, donc qui ont des enquêteurs et des enquêtrices, quoi, des gens qui voient comment on travaille, comment on utilise leur réseau, est-ce qu'ils ont remarqué qui avaient ces manquements et qui se sont dit go, on va leur apporter, ou est-ce que c'est plutôt la pression de tous ces comptes qui manquaient de ressources, en fait, qui a fait qu'ils ont créé?
Je ne saurais pas le dire, parce qu'en fait, je pense que pour répondre à cette question, il faudrait voir ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que je suis assez pas au courant de l'histoire de l'utilisation d'Instagram aux États-Unis, mais ce que je peux dire, c'est que Clit Révolution, on a lancé le compte en 2017 et je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà l'option story et qu'on commençait à... Enfin, on venait d'avoir l'option question, mais les stories, en fait, étaient vraiment pas quelque chose qu'on utilise... comment dire? Il y avait que les influenceurs qui utilisaient ça. Donc, une personne lambda... Moi, j'avais jamais fait de story, en fait. Et d'ailleurs, les stories, les premières stories qu'on a faites avec Clit Révolution, c'était des stories avec vraiment que du texte, des questions, c'était de la collecte de témoignages... on testait un peu l'outil story pour voir justement, nous à l'époque c'était dans le but de pouvoir avoir une communauté qui suit le tournage de Clit Révolution, la série, et qui du coup interagit avec nous, et on pouvait dire on sera à Dublin la semaine prochaine, qui est là, venez on prend un verre, on discute, enfin l'idée c'était un peu ça. Mais je me souviens qu'à cette époque là en fait c'était pas courant d'avoir des comptes. Aujourd'hui, il y a plein de comptes militants et de comptes qui sont là, qui sont pas des comptes qui représentent des personnes. C'était très peu... Enfin, il y avait pas encore même tous les médias. Le Monde avait pas forcément de compte Instagram. Enfin, il y avait des grands médias qui avaient pas forcément de compte Instagram. C'était vraiment un réseau social qui était utilisé par des personnes. Et je pense qu'à un moment, il y a eu un enjeu financier de la part d'Instagram et donc de Facebook, de Meta, on dit maintenant. d'essayer d'aller récupérer les entreprises, parce qu'en fait c'est elles, enfin il faut pas oublier le modèle financier, le modèle économique d'Instagram. Instagram c'est une régie publicitaire, c'est pas un réseau social, c'est une régie publicitaire, et donc le but c'est quand même d'avoir des annonceurs qui payent pour être mis en avant dans les contenus. Donc ça arrange bien d'avoir des utilisateurs et utilisatrices qui publient du contenu, ça arrange bien d'avoir des utilisateurs et utilisatrices qui likent des choses, parce qu'on se dit, si tu as liké cette photo de Lena Mafouf qui porte des Louis Vuitton, enfin des chaussures de chez Louis Vuitton, ils font des chaussures, je sais pas, mais en tout cas on va te mettre la pub pour ces chaussures de ces assos qui ressemblent un peu à ces chaussures de Louis Vuitton. Donc en fait c'est ça le modèle économique d'Instagram. Et donc Instagram avait, enfin évidemment qu'en fait t'as forcément un besoin de mettre en place des outils qui permettent aux rédactions, qui permettent aux marques créer leur plateforme pour pouvoir derrière ensuite les faire raquer.
Oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, ayant vu le compte privé et l'arrivée des comptes pro, les comptes business,
ouais, exactement.
C'est là où, en fait, où je me suis rendu compte de la publicité, parce que dans les comptes privés, c'est arrivé très tardivement. J'avais été très en colère d'ailleurs les premières fois où j'ai vu des pubs dans... Je me disais, mais j'ai jamais liké ce compte-là, c'est quoi ce... Enfin, on n'a pas été prévenus, en fait, de l'arrivée de la publicité. Que sur les comptes pro, on était déjà habitués, en fait, à avoir ça. Et ensuite, il y a eu le besoin d'Instagram de nous demander... d'identifier des produits à vendre. Là encore aujourd'hui, je dis tu vois, ils sont à propos, ils m'ont envoyé spontanément un mail. Instagram m'a envoyé un mail pour m'expliquer comment gagner de l'argent avec mon compte, comment monétiser mon compte, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de vues, etc. Et j'imagine que ça doit être ils ont dépassé autant de vues sur une story, et ben bam, on les appelle, on les enfin, on m'appelle pas, mais j'adorerais avoir Instagram au bout du fil, mais non. On m'envoie un mail en me disant, allez, allez, il faut investir. Donc, ils nous disent, ben voilà, il faut acheter de la communication, il faut acheter de la pub, il faut, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où je pense qu'on a peut-être compris que c'était quelque chose de l'ordre de l'argent qui était en train de se jouer. C'est toute l'arrivée de cette pub, en
fait. Mais c'est ce qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire, en fait, créer un réseau payant, gratuit.
C'est ça.
Créer un réseau gratuit, nous rendre accro et après nous mettre de la pub. Et d'ailleurs, on le voit bien. En fait, je sais pas si vous le voyez, mais au fur et à mesure, ça arrive de plus en plus souvent dans nos stories, entre les stories qu'on regarde.
Ouais.
Maintenant, parfois, t'as deux pubs d'affilée. Ouais, ouais. Avant, c'était une de temps en temps, de manière timide. Donc, en fait, oui, c'est leur modèle économique. Et c'est pour ça aussi, on en viendra peut-être là plus tard, mais c'est pour ça aussi qu'en fait, quand par exemple, nous, on a été 5 comptes en même temps à opérer un mouvement de bascule sur Patreon et à dire, bah, à partir de maintenant, on met en place une structure qui peut, enfin, un modèle économique qui est différent de celui de faire des partenariats rémunérés sur Instagram. Et en fait, il y a eu des personnes, alors pas dans ma communauté, mais dans la communauté de certaines autres personnes, qui étaient un peu indignées du fait d'avoir un abonnement payant. Mais en fait, on dépense beaucoup plus d'argent en étant sur Instagram, parce que combien de fois dans la journée t'es sur Instagram et tu veux acheter un truc? Tu finis forcément par craquer. En fait, il y a forcément un moment, une insomnie à 3h du matin, où tu sais pas ce qui te prend et tu le fais. En plus, maintenant, ils ont leur option où tu peux, ne faites pas ça, entrer ton numéro de carte bleue et du coup juste acheter en un clic. En fait, ça favorise beaucoup l'achat compulsif. Et entre les partenariats rémunérés plus les pubs qu'on voit passer, en fait, tu dépenses plus d'argent que si tu payais 5€ par mois tes 3 créateurs, créatrices de contenu préférés. Il y a un vrai... c'est le capitalisme, quoi.
Diable. On a le même mot, hein, ouais, c'est ça, c'est le diable. Et ça repose vraiment sur des techniques toutes simples, en plus de marketing et de...
Mais c'est hyper flippant, parce que moi, j'ai accompagné plusieurs médias qui se lançaient, HT, Sensor, des Gays Magazine, et la Déferlante aussi, mais qui se lançaient sur KissKiss, etc. Et donc, du coup, j'avais fait une formation pour les aider, une formation justement pour faire des publicités... Instagram. Donc, tu dois passer par une suite qui s'appelle la suite Facebook Business. Et donc, tu dis, OK, ça sera telle image, etc. Et en fait, quand tu apprends toutes les options, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Tu peux dire, je veux cibler les femmes qui vivent en ville, qui ont entre 35 et 40 ans, qui ont une amie femme qui va avoir un anniversaire dans les 2 semaines. Et qui gagne entre temps et temps. En fait, le niveau de précision avec lesquels on peut cibler les personnes est assez flippant.
Ah oui, c'est affolant. Mais on va revenir au féminisme dans tout ça. Parce que sinon, moi, je vais me perdre dans une stupeur.
Et par ailleurs, ces médias féministes, par exemple, se sont fait supprimer leur compte publicitaire. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que la solution, c'était bien targeter les gens pour leur mettre des pubs féministes, mais ça ne marche pas parce qu'elles se font supprimer leur compte publicitaire, elles peuvent pas faire de publicité.
Parce que de ce fait, si on remonte au début de ces engagements féministes sur Instagram, donc d'abord, on utilise les réseaux sociaux comme un endroit de visibilité, puisque les médias, en fait, ne donnent pas de visibilité à ces sujets-là. Parce qu'on est à des époques où, avoir des articles dans des magazines sérieux, des choses bien écrites, etc., ça n'existe pas, en fait, c'est très très rare. Et donc, les réseaux sociaux arrivent vraiment comme un peu des sauveurs, en fait, d'une visibilité de nos engagements, qui sont les féminismes. Alors, toi, tu dis le féminisme, donc je vais faire attention.
Mais on peut dire les féminismes, je suis complètement d'accord avec cette appellation.
Bon, d'accord. Et donc, on comprend qu'en une dizaine d'années, les comptes grossissent énormément et que, bizarrement, c'est des choses qui vont commencer à poser problème et qu'on commence à lire dans vos stories, en fait, des gros comptes féministes, donc qui vont parler, comme tu le disais, d'afroféminisme, mais aussi beaucoup de sexualité. C'est des comptes qui sont très intimes et politiques, qui représentent vraiment ces engagements-là. On va commencer à comprendre que vous vivez, en fait, des choses pas cool de la part d'Instagram, notamment, qui passent de des suppressions de stories aléatoires, des comptes... des publications qui vont aussi disparaître, des commentaires enlevés, jusqu'à carrément, en fait, des comptes entiers supprimés. Mmh. Et je me souviens, à l'époque, c'était Joonpla avec Jouissance Club qui, quand même, avait eu le temps de bien vivre et de bien se développer avant de complètement disparaître. Mmh. Mais tout ça, en fait, on le remarque pas Parce que, en fait, à moins d'avoir le nez sur le compte H24, on ne sait pas qu'il a disparu. Et c'est tout ensemble, tous les comptes qui, au fur et à mesure, vont dire eh, là, il se passe un truc bizarre, ce compte a disparu, appelez, aidez-nous pour que ça. Enfin, toujours pas appelez, mais enfin, écrivez ou faites des choses. C'est le truc du téléphone. pour le faire revenir, en fait. Et donc, c'est encore une fois des sujets qui prêtent à plusieurs interprétations à chaque fois, en fait. C'est de dire. C'est des comptes très forts qui amènent énormément de monde sur les réseaux, des engagements, des partages, enfin qui font vivre quand même ces réseaux sociaux. Et pour autant, dès que ça prend trop de place, bam, on supprime. Quel est leur but, en fait? Est-ce qu'on sait? Bon, après, je sais qu'aussi, il faut faire attention parce que t'es dans de la confidentialité, je crois, avec les
marques.
ok, pas de problème.
En fait, en effet, il y a eu... Alors, c'est intéressant parce que c'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que au début de nos comptes, les comptes sont très vite pris tous en fait. Il y a eu vraiment un engouement très fort qui s'est produit très rapidement, notamment grâce au compte Tajoui qui en fait a réussi à exploser parce qu'il avait été partagé par le compte Amour Solitaire qui avait presque 1 million d'abonnés. C'est intéressant aussi de voir en fait comment c'est une espèce de spirale où il y a un gros compte qui va, à partir du moment où il y en a une qui arrive, après elle arrive à embarquer toutes les autres. Et du coup, il y a eu vraiment une vague de comptes. Il y avait des comptes sexos qui existaient déjà, par exemple, Clit Révolution existait déjà, etc. Mais comme ils ont été partagés, en fait, ça a créé une spirale vertueuse. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a été, parce que c'est simple, ces comptes-là, ils ont tous décollé à l'été 2018. Et en mars 2019, en février 2019, on commence à se faire striker. C'est-à-dire, en fait, c'est Jouissance Club qui disparaît. Après, nous, nos comptes, ils sont bloqués. On est plusieurs comptes à être bloqués, c'est-à-dire à plus pouvoir poster. Le compte est là, mais on ne peut plus poster dessus, sans savoir vraiment pourquoi, sans pouvoir contacter personne pour régler la situation, et sans avoir énormément de succès en allant juste remplir le petit formulaire qui dit « je pense que tu t'es trompé ». Et ce qui s'est passé, c'est que la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, très vite, à l'été 2018, justement, en fait, très vite, on a identifié qu'on était plusieurs comptes sexo, féministes, etc. Et on s'est dit, venez, on prend un verre. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, on a très vite créé un réseau. Un réseau, donc du coup, on se connaissait. Il y avait aussi le fait que c'était devenu un phénomène médiatique. Donc, on se retrouvait parce qu'on était interviewés ensemble, on était invités à des conférences ensemble, etc. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on avait quand même noué des amitiés et des liens qui faisaient que on avait nos numéros, etc. Et donc, on a pu se contacter ailleurs que sur Instagram. Donc, en fait, June, quand elle se fait supprimer son compte, elle nous lance l'alerte. Très vite, on s'organise, on se mobilise, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, crée un nouveau compte. Et on est tellement toutes suivies que si on se met à toutes partager ton nouveau compte, on va récupérer tes abonnés. Je pense qu'à l'époque, elle a 200 000 abonnés, ce qui est énorme. Enfin, c'est toujours énorme aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment énorme, de chez énorme. Enfin, c'est-à-dire, parce qu'on oublie aussi que ça évolue et maintenant... Mais en fait, 200 000 abonnés, c'était un des plus gros comptes féministes, en tout cas, qui existait. Et du coup, on se mobilise, on commence à toutes partager. Voilà, on crée un visuel, un message, etc. On partage son nouveau compte et en 24 heures, elle récupère non seulement ses abonnés, mais encore plus d'abonnés que ce qu'elle avait auparavant. Donc, on se réjouit. Et en fait, je pense quelques jours plus tard, ça recommence. Le compte est supprimé à nouveau. Alors qu'il respecte, a priori, les règles de la communauté Instagram. C'est-à-dire qu'il y a, pour les personnes qui connaissent pas Jouissance Club, c'est vraiment des dessins très épurés qui expliquent des techniques de masturbation non pénétratives. Donc, on reste quand même dans quelque chose d'assez... soft, par rapport en tout cas au compte officiel de Marc Dorcel qui existe. Et donc du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait au début, donc il y a eu vraiment une vague de comptes qui ont été supprimés comme ça, et où notre force, c'était que comme on était des gros comptes, à chaque fois on se repartageait, on relançait, etc. Au bout d'un moment, on a passé l'étape d'après qui était l'étape pétition, médiatisation de la censure, etc. Et là, surprise, plus trop de comptes qui disparaissent. Mais par contre, d'un coup, plus personne voit ton compte.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire, il est là, mais plus personne te voit.
En fait, ils s'adaptent.
Ouais.
Au fur et à mesure, ils changent leur stratégie.
C'est terrible.
Ouais.
Et en fait, je vous invite à le faire de temps en temps, à aller voir la liste de des abonnements que vous avez. De revoir tous les... Et en fait, vous allez voir le nombre de comptes dont vous n'avez plus entendu parler depuis hyper longtemps. Et du coup, c'est un bon exercice à faire aussi pour y retourner, aller repartager des trucs, reliker, etc., pour pouvoir les revoir à nouveau. Mais en fait, c'est assez fou à quel point coup, c'est devenu une forme de censure douce et invisible, surtout, enfin, qui n'a rien de doux, mais c'est-à-dire invisible, c'est-à-dire on te met progressivement de côté, mais on te dit, mais non, tu n'es pas censuré, regarde, il existe encore. Parfois, ça va même jusqu'à, on ne peut pas taguer un compte, ou faut taper vraiment le nom du compte en entier, alors que c'est le compte sur lequel on va tous les trois jours pour trouver des informations. Et en fait, là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce que c'est devenu beaucoup plus compliqué à prouver. Pendant très longtemps, Instagram a démenti le truc, a dit « vous êtes complètement parano les meufs ». Et c'était hyper frustrant, notamment parce que ça a aussi des impacts très concrets, c'est-à-dire très concrets même financiers. C'est-à-dire nous, on a eu ça arrivé pile juste avant la sortie du manuel d'activisme. Enfin, la sortie, le crowdfunding, le financement participatif du manuel d'activisme. Comment on fait pour dire à nos abonnés qu'on est en train de sortir un livre, qui est un livre qu'elles ont demandé, qu'elles nous ont demandé de faire, comment on gère ça ? Y en a énormément aussi qui ont des partenariats rémunérés. Donc en fait, comment tu fais pour continuer à être rémunéré pour tes partenariats si en fait, au final, sur 20 000 abonnés, t'as 1 000 personnes qui voient tes stories. Et en fait, c'était arrivé à un stade où, comme je veux bien donner le bénéfice du doute à l'algorithme et me dire peut-être que, je sais pas, il y a plein de gens qui sont sur Instagram, donc les contenus sont moins... Mais on voit vraiment que c'est extrême. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais plus de vues sur mon compte perso, qui a 10 fois moins d'abonnés, que sur mon compte Clit Révolution, et que je suis une seule et même personne, et que donc, a priori, je partage à peu près les mêmes types de contenus.
Oui.
Et du coup, c'était assez... c'est assez dur, et c'est assez... En même temps, utile, parce que ça nous permet aussi de... Ça tire une sonnette d'alarme pour se dire, en fait, du jour au lendemain, tout peut disparaître. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui suivent Clit Révolution, mais si mon compte disparaît, je ne sais pas comment contacter ces personnes. Je ne sais plus, en fait, je ne sais plus comment aller chercher ces personnes pour leur dire « Eh, j'ai un nouveau compte ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forme d'épuisement. C'est-à-dire, à force de supprimer les comptes, là, maintenant, ça y est, resupprime les comptes aussi, donc ils font les deux. On est sur un double... une double peine. Mais du coup, maintenant, il y a aussi ce truc-là de, en fait, c'est devenu tellement fréquent qu'au départ, évidemment, les abonnés et les comptes se mobilisent. Et en fait, même moi, parfois, je partage plus tellement, en fait, tous les jours. Il y a un nouveau compte qui a été fermé sans raison. On l'a vu, Mauvaise Compagnie, donc le nouveau compte d'Anaïs Bourdet de Paytachnek, qui avait fait un post qui s'appelait Paye ton flic, qui n'a pas plu, et donc impossible de la trouver sur Instagram. Là, ça y est, je pense qu'elle... On peut la retrouver, mais le poste a sauté. Et c'est terriblement frustrant aussi parce qu'on n'arrive pas à avoir une personne à qui parler. Alors maintenant, on arrive aussi, parce qu'on a assigné en justice Facebook et que donc, au bout d'un moment, ils étaient obligés de se présenter. Mais en fait, c'est très énergivore et c'est très... Moi, ça m'a beaucoup posé question et en même temps, c'était aussi une manière de revenir à la réalité et de dire peut-être que appuyer toute une communauté sur un réseau social qui appartient à Mark Zuckerberg, ce n'est pas la meilleure idée qui soit.
Ça allait être ma réflexion suivante. C'est de dire, mais en fait, plus on y réfléchit, moins ça fait sens dans les engagements, en fait. C'est de dire que ce qui était chouette, c'est de pouvoir compter sur des réseaux sociaux qui rendaient les choses accessibles, qui c'était gratuit, qui permettaient à des communautés assez larges quand même, quel que soit leur emplacement géographique, on était quand même... sur un accès facile à l'information, donc c'était génial. Mais en fait, là, ils sont en train de vous forcer petit à petit, en fait, à rentrer dans leurs codes, qui sont les codes capitalistes, donc qui doivent générer de l'argent, qui doivent pas être problématiques, mais problématiques de qui ? De qui
ils sont. Des annonceurs. En fait, c'est les annonceurs qui veulent pas être à côté de propos polémiques. Donc c'est, en fait, c'est Vuitton qui veut pas être à côté de Payton Flic.
Bien sûr.
Et donc, pour éviter le truc, on supprime.
Et puis, il n'y a rien à faire, mais on reste quand même dans une société patriarcale. On n'en est pas encore à dire qu'on a inversé, en fait, le discours. Donc, ce qui fait que, puisque ce sont que des comptes qui vont à l'encontre de ce discours général, qui sont quand même contre les dominants, contre le capitalisme, enfin, c'est quand même... moi, je trouve quand même déjà assez préoccupant qu'ils vous aient laissé autant de temps, de la place de vous développer, en fait. On aurait pu dire que dès le début, c'était pas possible dans leur modèle sociétal, en fait, tu vois.
Et après, on dit tout ça, et je tiens quand même à préciser qu'on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas Mark Zuckerberg qui a genre sa petite armée de mecs qui sont là genre « Ah, c'est du contenu féministe, on va striker ». Évidemment qu'en fait, c'est les conséquences du sexisme hors ligne, et c'est évidemment aussi les conséquences de signalements massifs de la part de masculinistes. Oui, c'est ça. En fait, c'est un ensemble, c'est juste ils ne nous protègent pas de ces campagnes-là de harcèlement. On n'est pas dans un truc complotiste, etc. Mais du coup, force est de constater qu'ils sont très bien organisés et que par contre, en face, ça autant c'est très facile de aller supprimer un poste qui dit paye ton flic en quelques secondes, autant quand on a des posts qui, enfin des commentaires harcelants ou des messages harcelants ou des contenus pédocriminels. Non, pédocriminels, c'est faux. Ils sont très rapides sur la pédocriminalité, mais des contenus racistes, sexistes, etc. Là, ça met les menaces de mort à mettre 10 jours à être supprimées.
Oui.
Donc, on a fait le test.
Ah oui.
Ouais, on a fait le test. Et en fait, si les commentaires, quand tu postes un commentaire haineux, on a fait le test de poster un commentaire haineux sous un post et de le signaler. En fait, il a mis 10 ou 12 jours à être supprimé. Donc, c'est aussi la question de où est-ce que tu mets ton énergie et ta vigilance, et est-ce que c'est vraiment plus dangereux d'avoir un petit téton qui traîne que ou un paye ton flic.
Oui.
Que.
Mais c'est là où on peut pas. Enfin, moi je trouve que c'est difficile de pas tomber dans l'imagination des petits mecs. Qui disent c'est pas bien ça, etc. Enfin, tu vois, moi je comprends bien qu'on est en train de parler d'algorithme, et grâce à Judith Duportail, on a bien compris, avec son livre sur les applications de dating et Tinder notamment, on a bien compris que l'algorithme était genré, en fait, qu'on pouvait faire dire des choses bien particulières. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les réseaux sociaux sont construits sur les algorithmes, ils ont bien décidé des critères, en fait, de ces algorithmes. On crée. Un algorithme ne peut pas être pas du tout dirigé, en fait. Il y a une base de commandes, je ne sais pas trop comment. Je ne suis pas du tout spécialiste.
C'est assez évident, en fait, que quand tu arrives à être un réseau social avec 2 milliards d'utilisateurs, la moindre des choses, c'est en fait d'avoir dans chaque pays des associations qui sont mandatées pour, en amont, aller signaler en disant « Attention, quand on envoie des médailles, machin, ça participe à une campagne de cyberharcèlement profondément sexiste, raciste, etc. » Attention, parce qu'en fait, il y a aussi la question des codes et de qui sont les personnes qui modèrent.
Ouais.
En fait, je sais pas si vous avez vu les quelques documentaires sur les modérateurs et modératrices de Facebook et donc d'Instagram. Ce sont des personnes qui parlent pas forcément la langue, qui sont pas forcément, qui ont une demi-seconde pour décider si oui ou non on efface, qui travaillent dans des conditions affreuses,
bien sûr.
Qui sont clairement pas suffisamment nombreux. Et donc, il y a aussi cette question-là de en fait, comment est-ce qu'on organise la modération, quelle est la part d'être humain, la part de robot, et surtout, est-ce qu'on a des personnes capables de détecter, en fait, les codes de... c'est le nouveau truc, par exemple, là, le nouveau truc pour insulter les étrangers, apparemment, c'est Pokémon. Enfin, en fait, si tu sais pas, si t'es pas dans l'hémisphère d'extrême droite, tu ne le sais pas.
Ouais, ouais. Ouais, après, ces problèmes-là de cyberharcèlement, de contenu problématique en ligne, en fait, c'est des questions qu'on s'est déjà posées avec juste l'arrivée d'Internet. Les contrôles parentaux, les... Enfin, je me dis... on est face à des boîtes qui sont pas nées de la dernière pluie, en fait. Elles se sont construites quand même, c'est des empires informatiques assez dingues qui sont capables de faire des choses quand même assez poussées. Donc, enfin, moi, ça me paraît quand même assez léger qu'ils ne puissent pas créer des outils fiables pour des consultations et des navigations en sécurité, en fait. Les insultes, les menaces de mort, comme tu dis, il y a des, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des manières de coder en fait ces langages-là pour les retrouver facilement, pour mais ça demande
de
vouloir le faire.
L'intelligence humaine, en fait.
Ah oui, bien sûr.
C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec, typiquement, je sais pas si vous connaissez le travail de SEO lesbienne. C'est grâce à elle que quand on tape lesbienne sur Google, maintenant, on a du porno.
Bien sûr.
Et elles, en fait, elles ont fait tout un travail. Et ce qu'elles dénoncent aussi, c'est le fait que, par exemple, le mot Gwyn va être considéré par l'algorithme comme une insulte. Ce qui peut être le cas, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Et ce qui est aussi un mot revendiqué par certaines lesbiennes pour, comme la slut walk, comme, en fait, du coup, t'es obligé à un moment donné d'avoir une intelligence humaine. Qui permettent de faire le tri. Donc, il y a clairement un problème dans soit la manière dont on légitime un compte ou l'autre à parler, et de dire peut-être qu'au bout d'un moment, on peut certifier... Enfin, les comptes qui sont certifiés, qui n'ont pas fait de propos problématiques, on peut partir du principe qu'on fait vérifier par un être humain avant de le supprimer complètement. En fait, il y a tout qui est à repenser. Mais c'est une régie publicitaire et c'est pas la priorité.
Oui, voilà. La priorité, c'est l'argent. Oui, bien sûr. Au moins, il n'y a pas de problème de contrat et de choses qui ont été mises en activité pour l'argent, quoi. Évidemment. Mais le seul problème, et c'est l'un des chapitres de ton livre, c'est qu'on n'est pas que sur du commentaire qui peut être régulé ou pas, qui peut être ignoré ou pas, c'est qu'on arrive à des violences et du cyberharcèlement qui est, enfin, qui peut être jusqu'à fatal, en fait. C'est des personnes, et notamment énormément de femmes ou de personnes transgenres, qui prennent des rafales, en fait, parce qu'on on en est là, on a des rafales de, alors je crois que c'est des raids même, de violences, d'insultes, de commentaires haineux et de jeux aussi. Enfin, j'ai quand même, j'ai découvert dans ton livre ce système de, t'étais dans une conversation avec
en live avec Gabriel Désir.
Voilà, c'est ça, et que en direct tu vois arriver tous les mêmes emojis que tu
fleur de lys et croissant.
Voilà, et où tu découvres au fur et à mesure qu'en fait c'est une attaque, quoi, qu'on est en train de
Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça pose aussi la question de, on peut pas remettre toute la responsabilité sur les plateformes.
Oui.
Je suis loin de les innocenter, mais je dis aussi ça questionne aussi nos propres pratiques. Et si on pense à nos propres pratiques, moi-même, si j'y repense, je sais que j'ai posté des commentaires haineux, j'ai fait des tweets pas très cool, certes, vers des personnes pas très cool, mais en fait, c'est pas une raison pour harceler les gens. Et du coup, c'est aussi une question de... on n'a pas encore pris le temps d'éduquer à notre manière de communiquer. C'est-à-dire, je sais pas, quand t'es enfant, t'apprends qu'il faut pas insulter les gens, faut pas leur cracher dessus, faut pas les taper. Parfois, il y a des... voilà, parfois, ça se fait quand même... Mais il y a un vrai truc sur les pratiques où j'ai l'impression qu'il y a une distanciation et où moi je le vois parce que même parfois j'ai même des abonnés à moi qui m'envoient des trucs où je suis là mais en fait ça a pas la tête de m'envoyer un truc comme ça, et je pars du principe que si la personne est abonnée c'est qu'elle aime à peu près ce que je fais, et du coup je pense que c'est vraiment aussi un réflexe de et Twitter a vachement démocratisé ce truc là de la petite punchline, de la petite phrase assassine, etc., qu'on a vachement valorisé et qui était, il faut le dire, très drôle au début. Et où en fait, quand on voit que ça s'accumule et que ça se multiplie, c'est plus tenable humainement. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes, notamment June de Je Sens Club, j'ai pas repris ces propos-là dans mon livre, mais qui me disait, moi, une des choses qui me dégoûte aujourd'hui sur Instagram, c'est de voir tout l'amas de haine qu'elle reçoit pas forcément elle d'ailleurs, en fait. C'est pas forcément, elle est pas forcément la cible de ça, mais c'est de voir à quel point il peut y avoir des attaques hyper violentes, y compris intra-communautaire, c'est-à-dire en fait entre féministes, sur comment on va aller. Moi, je trouve que ça questionne beaucoup aussi, en fait, à quel moment on a besoin, si, je sais pas, on a lu un livre qu'on trouve pas ouf, d'aller l'exposer de manière publique, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on va pas se dire, je vais envoyer un message privé à cette fille qui est quand même très facilement contactable, parce que je peux lui envoyer un message privé en lui disant... je trouve ça dommage parce que dans ton livre, t'as pas analysé tel truc, où tu parles de ça, mais tu oublies complètement ça. Parce qu'en plus, souvent, c'est pas forcément... Je parle même pas des conflits politiques profonds. Je parle vraiment de la critique gratuite et de cette habitude qu'on a eue à mettre en place un dispositif d'humiliation publique pour montrer qu'en fait, nous, on est la vraie féministe pure, au cœur pur, avec des intentions nobles, etc. Et en fait, ça crée un cercle de méfiance qui brise complètement la dynamique hyper soror et adelph qu'il y avait au début d'Instagram, où en fait c'était assez incroyable à quel point tous les comptes se partageaient les uns les autres. Et en fait, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il y a dans un compte, ça veut pas dire qu'on trouve que chaque personne est brillante, etc., mais en fait elle a le mérite de faire, et du coup c'est ça qu'on veut mettre en avant et c'est ça qui favorise un discours. Et là on est arrivé à un stade où, et ça, typiquement, enfin, les algorithmes ont aussi quelque chose à voir là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des contenus qui provoquent énormément d'engagement, qui te font toujours gagner des abonnés, donc en fait, c'est la même technique que Booba et Rof. C'est Booba et Rof qui s'embrouillent? Non, Booba et Caris. c'est la même technique que Booba et Caris, c'est-à-dire en fait, pour vendre des albums, tu entretiens un clash, et donc, ça fait parler de toi, et donc ça, et en fait, c'est exactement la même chose, que ça soit fait de manière très pensée et calculée ou pas. En fait, ça crée de l'adrénaline, ça fait que les gens restent en... C'est terrible parce qu'en fait, ça détruit la santé mentale d'à peu près tout le monde. C'est-à-dire, ça abrutit complètement les personnes qui assistent à ce clash. Ça te détruit aussi toi parce qu'en fait, du coup, ça lance des guerres entre la communauté de l'une et la communauté de l'autre. Enfin, moi, ça me questionne énormément. Et je sais que c'est des choses... Enfin, moi, je trouve que c'est des choses qu'on ne questionne pas encore suffisamment dans les milieux féministes et où il y a tout un discours... je suis d'accord pour dire qu'en fait, la sororité, c'est pas... voilà, c'est pas juste parce qu'il y a une femme en face de toi qu'on est obligé d'être meilleure pote. Mais pour autant, la question de stratégie politique, en fait, juste simplement de quelle est ta stratégie au moment où t'envoies ce commentaire, où tu postes cette story. Est-ce que ta stratégie, c'est de faire... Est-ce que l'objectif, c'est de faire changer d'avis la personne en face? Auquel cas, lui dire qu'elle est complètement conne, je suis pas sûre que ça soit une bonne stratégie. Est-ce que la stratégie, c'est de faire comprendre à ta communauté que ce qu'elle dit, c'est complètement con? auquel cas peut-être que tu peux le dire d'une manière un peu plus constructive et dire le problème avec ce type de discours, sans forcément la pointer du doigt, en la taguant et en disant « Regardez, est-ce que l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut ou est-ce que l'idée, c'est de sortir du lot ?» Et je pense que c'est des questions qu'on doit vraiment se poser avant de faire ce type de story. Enfin, je dis pas qu'il faut jamais faire de coups de gueule, etc. Mais c'est juste que il me semble que le féminisme, comme tout mouvement politique, ça, c'est avant tout une question de comment on se remet en question soi et comment on se remet en question collectivement. Et pour se remettre en question, il faut pouvoir dialoguer. Et tu peux pas dialoguer en insultant les gens.
Non.
Ça ne marche pas.
Mais de toute façon, là, on est... parce qu'il y a une thématique assez sous-jacente dans tout ton livre, c'est de comment, en fait, on peut évoluer en essayant de faire différemment dans un modèle sociétal, économique, qui est créé, en fait, par les dominants, par le patriarcat. Et donc là, c'est exactement ça, c'est de dire, ben, à partir de quand on communique d'une autre manière, on pense les liens aux autres d'une autre manière. Et ça, c'est typiquement parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord.
Ouais.
On a le droit d'argumenter, de, etc. Mais on n'a pas le droit, en fait, de faire de la personne la cible, le
Exactement.
Diable. Parce qu'en personnifiant comme ça, on est juste en train de gaspiller énormément d'énergie pour tout le monde et de fragiliser la personne en face à un endroit d'intimité qui est déjà difficile à construire puisqu'on est en train de déconstruire beaucoup de choses et de tenter d'autres choses. Et moi, je sais que... toutes ces questions-là me sont beaucoup venues suite à la lecture notamment de Lutter Ensemble de Juliette Rousseau ou de La Joie Militante, en fait, de questionner la façon dont on milite et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de fois, en fait, où on est d'abord un peu tout seul dans notre coin et on fait bien et c'est trop cool et on est cool. Et à un moment donné, on rattrape, en fait, la façon dont la société fonctionne de manière patriarcale. Mais c'est inhérent,
terrible.
Mais c'est horrible.
C'est terrible.
Mais à partir du moment où on le sait, bah de ce fait, peut-être que ce pas-là de recul, de dire « Ah là, spontanément, j'aurais envie de faire idiote » ou de manière plus violente, ça aussi, mais moi, je vais rester plutôt calme. Mais plutôt que d'avoir cette réaction-là violente, peut-être que si on a fait le pas de recul, de se dire « Eh, ça, c'est ma réaction capitaliste, c'est ma réaction conne, patriarcale, je l'ai quand même fait. Si je fais le pas en arrière et que je réfléchis autrement, bah oui, là, je peux peut-être parler de pourquoi... on peut voir une autre vision, ou peut-être qu'on peut nuancer là-dessus, ou d'être plus constructif, en fait. De plus être dans une guerre de soi, mais dans quelque chose de plus constructif.
Ouais.
Mais c'est une alerte constante, hein.
Mais complètement. Et tu vois, ce qui est intéressant... c'est que ce qu'on a constaté, la chercheuse... Alors, je suis vraiment désolée, elle a un nom un peu compliqué. La chercheuse que j'ai interviewée, qui s'appelle Elena Walden... je veux pas dire de bêtises. Oh là là, quel enfer. Je vais vous retrouver son nom. En tout cas, la chercheuse que j'ai interviewée, québécoise, qui travaille sur ces questions-là, ce qu'elle me disait, c'est que elle, ce qu'elle avait constaté, c'est que ce que les sociologues appellent les féministes de clavier sont les plus intransigeantes et les plus violentes, en fait, en ligne, envers d'autres féministes. C'est pas anodin, je trouve.
Ouais.
Parce qu'en fait, ça explique, c'est complètement logique que celles qui sont passées par le terrain le soient moins parce qu'elles ont été habituées à être en empathie avec des personnes différentes. Et ça, c'est hyper...
beau.
C'est... Ouais, c'est hyper beau. Alors, attends, il faut que je retrouve le chapitre.
Mais c'est vrai que ça fait pas... ce moment-là est hyper intéressant aussi parce que, en fait, de se dire qu'on a autant construit les mouvements féministes sur les réseaux, mais de se rappeler... Mais je crois que Laurane Safou, elle en parlait aussi.
Oui.
De se rappeler que c'est en étant en contact avec les autres personnes, entre femmes, etc., et que c'est là... qu'on reprenait un peu les pieds sur terre aussi de la relation à l'autre. Il y a une sorte de retour quand même à, peut-être à la rue et à la discussion.
Oui, en fait, c'est
et
un retour à la rue qui est nécessaire. J'étais presque sur le nom. C'est donc Elena Valdipuel. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Mais c'est pour ça que moi, je reste quand même positive sur cette histoire et je ne pense pas que ça n'a servi à rien. Bien, ça a servi à beaucoup de choses parce qu'en fait, ça a quand même... les réseaux, ils nous ont quand même permis de d'étendre nos territoires, d'aller chercher aussi d'autres types de personnes.
Mm-hmm.
Parce que, enfin, moi, à l'époque où je rentre chez Femen juste parce que toutes les féministes qui sont dans le paysage féministe et qui sont pas très nombreuses à être visibles, elles parlent une langue que je connais pas, que je comprends pas. Le mot patriarcat, en fait, je savais pas ce que c'était. Et donc, du coup, j'ai l'impression de pas appartenir à ce monde et donc de pas pouvoir leur apporter grand chose. Et donc, je trouve ça cool, hein, ce qu'elles font, mais je les rejoins pas. Et je rejoins Femen parce que c'est des meufs qui ont l'air un peu comme moi et que je sais au moins ce que je peux faire, c'est juste me pointer et être là. Et je trouve qu'Instagram, ça a permis ça, en fait. Instagram, ça a permis de s'identifier beaucoup plus facilement à certaines personnes, de voir qu'en fait, ça avait des actions qui étaient faciles à mettre en place, ou alors carrément, t'as des personnes qui font des appels à l'action et dire allez, voilà, il y a un poster, il est là, imprime-le à ton bureau et va le coller dans la rue. Et donc, du coup, ça aide, en fait, et ça te permet de trouver beaucoup plus de femmes comme toi. Et du coup, je pense qu'en fait, c'était une étape nécessaire, qui était importante, de rajeunir et de rafraîchir aussi les personnes qui allaient s'engager, qui allaient passer à l'action. Et je pense que c'était, voilà, c'était l'étape 1. Et maintenant, l'étape 2, c'est de prendre cette communauté et de la renforcer hors ligne.
Oui.
De la renforcer hors ligne, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Je ne suis pas du tout en train de dire sortez des réseaux sociaux, etc. Mais je dis juste, déjà, essayons de nous émanciper des algorithmes. Essayons de reprendre un peu les newsletters, les blogs, la presse papier, hyper importante en fait, les clubs de lecture, les rencontres en librairie, les collages qui sont des moments où en fait on apprend énormément parce qu'on est au contact d'autres femmes et que donc on échange, enfin d'autres femmes et d'autres personnes tout court d'ailleurs, et qu'on échange sur les questions. Et en fait la question c'est, ok, maintenant qu'on a eu une prise de conscience collective qui certes n'a pas touché tout le monde, mais où on est quand même suffisamment nombreuses et nombreux pour s'organiser, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Comment on s'organise? Je pense qu'il faut essayer de pas tomber dans ce piège-là, de s'effriter complètement sur des formalités et sur une manière en fait trop brutale de communiquer. Et on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, et on peut aussi dialoguer. Et dans un monde dans lequel la gauche s'effrite, heureusement la droite aussi s'effrite, et où en fait ça devient de plus en plus compliqué de faire front, c'est important, je pense, d'organiser des rencontres pour essayer de trouver des points communs et des stratégies politiques. En fait, on a besoin de temps pour trouver nos stratégies politiques.
Tout à fait, et je ne peux que penser à tous ces followers. Donc, quand on parle de 100 000 personnes, si toutes ces personnes sont dans la rue pour dire des choses, pour évidemment le 8 mars, puisque c'était il y a deux jours, mais pour tout autre appel à manifestation, mais là, en fait, les choses, elles peuvent peut-être commencer à bouger dans la vraie vie. Alors, c'est comme on dit, IRL et...
IRL.
Voilà. Ouais. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, celui-là, mais je crois que j'étais fatiguée, vraiment.
Non, maintenant, c'était hors ligne. Dans le livre, je parle de IRL, mais maintenant, j'essaie de dire plus hors ligne, parce que c'est vrai qu'Internet, c'est la vraie vie, c'est-à-dire, dans le sens, par exemple, quand tu subis des violences sur Internet, ça a un impact clair sur ton sommeil, ta santé mentale, etc. Mais oui, IRL. Et en plus, je pense aussi que l'avantage du retour hors ligne, il permet aussi de briser une forme d'horizontalité. Parce que maintenant, t'as quand même des leaders d'opinion qui sont les influenceuses et derrière, les personnes qui suivent. Et je pense qu'au début, c'était super chouette pour faire découvrir des choses et pour mener une idée éditoriale. C'est un peu comme un rédac chef. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi... faut aussi questionner... Ça serait intéressant. J'ai pas eu le temps de faire l'étude, mais il faut questionner qui sont les personnes à la tête de ces comptes, qu'est-ce qu'elles ont en commun. Elles ont forcément en commun, spoiler alert, d'avoir beaucoup de temps. Donc, soit c'est parce qu'elles sont... c'est forcément qu'elles sont quand même dans des conditions matérielles privilégiées, parce que travailler gratuitement... En fait, avant de gagner de l'argent avec Instagram, il y a quand même une longue période où tu travailles gratuitement et tu perds beaucoup de temps. Et du coup, c'est aussi la question de comment on fait un retour collectif. Parce que tenir un compte Instagram de manière collective, c'est ta pensée qui a essayé de faire ça. Et en fait, c'est hyper difficile. Et du coup, c'est un peu la question de comment on retourne à des échanges peut-être un peu plus horizontaux. Et ça, c'est hyper important aussi. Je pense que ça circule, qu'on ne se refiche pas. C'est ce que tu disais, où en fait, on se refiche très facilement dans un modèle classique, pyramidal, et qu'on ne se remette pas là-dedans. Parce que ça crée forcément des guerres d'égo.
Oui, bien sûr.
Il y a un truc à repenser.
Mais
on est dans un tournant. Moi, je pense qu'on est vraiment à un endroit qui bouge là. Où faut vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'on a envie de faire. Enfin, quelle est l'étape d'après? Parce que ça peut basculer dans un truc hyper cool, comme dans un truc hyper pas intéressant, pas enrichissant, et qui reproduit en fait ce truc de les plateformes, c'est celle-ci, celle-là. Typiquement aujourd'hui, monter un compte Instagram qui est beaucoup suivi, c'est hyper difficile. Nous, on a été beaucoup suivi parce qu'on est arrivé à un moment où il y avait personne d'autre.
Oui, c'est ça.
Et où du coup, ça a créé une émulation. Mais en fait, on est privilégié aujourd'hui d'être à ces places-là.
Après, et pour terminer, je trouve que ce qui est très chouette, c'est l'arrivée de tous ces livres aussi, qui permettent à tout un public qui n'est pas sur les réseaux, qui ne suit pas, qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie, de quand même, lire et découvrir et se déconstruire grâce à tout le travail déjà fait. Et je remarque là, donc il y a eu énormément de livres, de comptes Instagram, et les maisons d'édition ont aussi bien compris cet enjeu-là, puisque bon bah voilà, même dans l'édition, il y a des enjeux parfois très capitalistes, hein. Et donc d'aller demander en fait à des comptes de créer des contenus, etc. Mais malgré tout, l'arrivée des livres, c'est vraiment de montrer ce que tu dis sur le hors ligne. C'est là, on est avec un élément dans la main qui n'a pas besoin de courant, qui n'a pas besoin, qui peut être emporté partout, etc. Et diffusé et transmis. Et donc petit à petit, j'ai l'impression en fait qu'il y a un chemin quand même qui est assez positif, de dire oui, tout s'est fait sur Internet pendant un temps. Mais là, on revient à des modèles hyper classiques, les revues qui fonctionnent super bien. Donc, il faut continuer. Il faut
continuer, je pense, à vraiment se diversifier sur les supports. En fait, il faut qu'on soit partout. Donc, il faut qu'on soit aussi bien sur Internet que dans les librairies, qu'à la télévision, qu'à la radio, que sur les podcasts, que dans la rue, qu'à l'Académie française. Que, en fait, non, mais c'est hyper important.
Ah, mais bien sûr.
Faut qu'on ait un filtre. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de traiter dans ce livre qui, en fait, aurait pu être une encyclopédie si je m'étais écoutée. Mais il y a vraiment aussi, c'est intéressant de voir à quel point elles sont nombreuses. En tout cas, les personnes que j'ai interviewées pour mon livre, elles sont nombreuses à déjà avoir commencé ça. Camille Montcarnel de Je m'en bats avec Lito, elle a commencé à faire des seuls en scène, à organiser des rencontres. Il y a Léa de Merci Beaucoup, pareil, elle a commencé à organiser, je crois, c'est tous les mois ou tous les deux mois, au hasard ludique, elle organise des rencontres où on joue un jeu, et du coup, l'idée, c'est de parler de sexualité de manière décomplexée, etc. Elle a lancé un podcast. On est en train de se diversifier parce que forcément, déjà, on a compris qu'Instagram, dans quelques années, c'était terminé. Ça n'allait plus, c'est la fin d'Instagram. Et d'autre part, on a aussi eu ça nous a permis aussi d'atteindre une forme de crédibilité ou de légitimité nécessaire à derrière avoir des opportunités professionnelles. Et ça, c'est un truc que je raconte dans le livre aussi. Mm-hmm. C'est aussi la difficulté de certaines à quitter les réseaux, c'est de se rendre compte que sur le marché du travail, on va aller t'inviter ou te proposer d'écrire un livre ou te proposer de réaliser un truc parce que t'as des abonnés. Mm-hmm. Et ta valeur se réduit presque à ton nombre d'abonnés. Donc la question, c'est comment on fait pour justement trouver une assise suffisante pour plus avoir besoin de ça et laisser la place à d'autres choses, en fait, laisser la place à d'autres contenus, à d'autres médias. Mais moi, je suis persuadée qu'en fait, le fait de se retrouver dans des communautés avec moins de personnes, mais en fait, dans une situation dans laquelle on peut plus dialoguer, par exemple, on a un clit de book club sur mon Patreon qui est trop cool, on est une vingtaine de meufs et de mecs, et chaque mois, on arpente un livre, c'est-à-dire on lit collectivement un livre où chacune on se partage les chapitres et après on les restitue oralement. Et en fait, ça, on voit comme en un an, ça nous a toutes fait grandir, ça nous a toutes appris plein de trucs. C'est hyper réjouissant et je pense que c'est l'étape qu'on avait besoin de passer, c'est-à-dire en fait de se rencontrer et d'essayer de discuter, parce qu'en fait, ça te permet aussi de plus être complètement hors sol et de plus te répéter en boucle. Il y a aussi, enfin, on n'en a pas parlé, mais l'algorithme d'Instagram qui te pousse à produire de plus en plus. Donc forcément, c'est de moins en moins qualitatif. Oui. Et je pense que tout le monde a remarqué que les feeds d'Instagram, ça devient une catastrophe absolue en termes de... Enfin, c'est le néant de la pensée. Je veux dire, il y a quelques comptes qui arrivent à tenir le coup. Je sais pas, préparez-vous pour la bagarre. Je sais pas comment elles continuent à faire autant de contenus hyper intelligents, hyper bien travaillés, etc. Mais en fait, on ne pousse pas forcément à ça sur les réseaux. Donc la question, c'est comment on... change en changeant de plateforme, parce que t'as Discord, moi je suis sûre que Discord ça va vraiment monter dans les années qui viennent, il y a la newsletter, il y a le blog en fait, qui n'était pas une si mauvaise option que ça.
Oui, c'est ça, on va peut-être revenir.
Donc il y a aussi des réseaux sociaux qui sont hyper, hyper intéressants à investir, mais il y a aussi les rencontres, et ça c'est, je pense, c'est, faut pas oublier, hein, le MLF... ces dizaines, centaines de milliers de femmes qui étaient dans la rue, qui nous ont obtenu le droit à l'avortement, le droit à la contraception, etc., elles n'avaient pas Internet.
Non.
Je posais la question la dernière fois à Elisabeth Nicoli du MLF. Je lui disais, mais comment vous avez fait ?
Oui.
Et en fait, elle a commencé... Je ne peux pas vous raconter. Mais je ne peux pas tout vous raconter maintenant, mais elle a commencé à me raconter comment elles éditaient, comment elles imprimaient le torchon brûle, comment ça fonctionnait, comment en fait tout le monde cotisait, comment ensuite elles le distribuaient dans toute la France. Mais c'est hallucinant en fait de dire qu'elles ont réussi à mettre autant de femmes dans la rue sans Internet.
Mais oui, évidemment. C'est fou. Mais c'est ce qui peut faire aussi se rassurer que si Instagram arrête tout,
C'était tous les mouvements.
On y arrivera aussi.
Dit, voilà.
Mais bien sûr.
On peut y arriver.
On peut y arriver. Merci beaucoup, Elvire.
Merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution de son ouvrage « Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine » aux éditions Hors d'atteinte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.